Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, tu veux nous parler de la situation avec Jabar Khalibi, qui est un militant iranien qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'expulsion. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Exactement. Malheureusement, notre camarade Jabar, qui est ici depuis 2005 et qui avait fait sa demande de résidence permanente, il a reçu très récemment, après, ça veut dire qu'après 8 ans, presque 9 ans de séjour, un avis d'expulsion. Ça veut dire qu'il était supposé recevoir depuis très longtemps le processus ou l'adaptation de sa demande, mais malheureusement, là, il n'y avait pas de nouvelles. Maintenant, il reçoit un avis d'expulsion basé sur certains événements passés il y a presque 27 ans en France. Et encore là, paradoxalement, il vient de recevoir la citoyenneté française en 2009. Et le passeport français, et ça veut dire que le Canada qui se base sur le fait qu'il soit emprisonné en 1986, soi-disant pour des organisations de lutte armée contre le régime iranien, régime qu'on appelle avec l'édit du gouvernement canadien, un régime dictatorial, et ainsi de suite. Et même que le Parlement canadien ait déclaré le régime en place comme criminel de guerre. Et à lui, on reproche de militer contre ce régime, et ce que Jabar n'avait jamais caché. Il y a quelqu'un qui est très connu dans le milieu militant en Iran, en France, même au niveau international. Et c'est un ancien professeur de sciences politiques. Ça veut dire qu'il a enseigné la science politique en Iran. Et quelqu'un qui est très réputé comme théoricien. Mais malheureusement, pour ses convictions qui sont très nobles pour bien des gens, parce qu'il se combat contre des régimes dictatoriels, et le gouvernement canadien, il se reproche ça, et en disant qu'il peut pas être considéré comme résident canadien. Et si même si on se basait sur le fait que, et selon eux, ça peut être une menace à la sécurité nationale. Il est ici depuis presque 9 ans. Il a passé, comme j'ai dit, 22 ans en France en présentant aucun danger. Et quelqu'un de 70 ans que je côtoie très régulièrement, je n'ai aucune peur. Et je pense que les citoyens canadiens et canadiennes et québécois et québécoises n'ont aucune peur non plus, parce que quelqu'un qui est très engagé, il travaille, sa femme, elle travaille ici, ses deux enfants que je côtoie souvent, une à l'université, l'autre au cégep. Je pense qu'il n'y a aucune raison fondée pour qu'on l'expulse.
Justement, après 8 ans, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que le Canada réagit par rapport à sa présence ici?
Ce qui est surprenant, d'abord, de ne pas donner de nouvelles pendant 8 ans à sa demande, c'est un peu surprenant. Deuxièmement, il y a une question de rapprochement ou on peut dire la monnaie d'échange diplomatique avec le régime iranien. C'est justement ce qui s'était passé dans les années 80 en France. Alors, on l'avait poursuivi, on l'avait emprisonné, on l'avait vraiment harcelé, justement parce qu'on voulait faire des échanges politiques, économiques et diplomatiques avec l'Iran. Et lui, comme certains d'autres militants communistes qui se battaient contre le régime iranien, était un monnaie d'échange. Et présentement, on peut faire ce lien parce que depuis quelque temps, le gouvernement canadien, même s'il considère le régime islamiste criminel de guerre, il veut avoir des relations diplomatiques. Et encore plus récemment, avec l'élection de M. Rouhani, le nouveau président iranien qu'on considère à tard immodéré, parce qu'il est un des piliers du gouvernement iranien depuis la révolution ou contre-révolution iranienne de 1979. Alors, ça veut dire qu'il y a un jeu politique et diplomatique, ça se fait, et qu'on peut considérer vraiment une politique impérialiste, que ça continue et qu'on fait, on fait sacrifier des gens, qu'on l'a déjà fait sur terrain là-bas, mais à l'extérieur aussi. Tous qui sont opposés à ce régime, on essaye de les liquider.
Est-ce que cette tactique-là, justement, est en lien avec les nouvelles lois en immigration qui pullulent depuis les dernières années?
Ça peut être un deuxième lien qu'avec le gouvernement conservateur. on essaye de sortir toutes les excuses pour empêcher la résidence comme les séjours des militants et militantes, surtout des gens qui sont plus à gauche, qui sont expulsés. On a eu les cas de militants basques, on a eu les cas de certains d'autres familles. Et justement, hier, on a déporté une famille, si je ne me trompe pas, andorien ou d'un Brick du Sud, avec ses deux jeunes enfants qui fait étudier ici. Et même si les jeunes étudiants de leur cégep et de leur quartier sont mobilisés, mais on l'a expulsé, même en reconnaissant que leur vie était en danger dans leur pays.
Puis si on parle un peu plus de la situation justement avec Jabbar et sa famille, ça va être quoi c'est quoi la situation en ce moment? Il a reçu un avis d'expulsion, mais les prochaines procédures, ça va ressembler à quoi?
Premièrement, il y a eu une rencontre, ou on peut dire une audience avec le commissaire il y a quelques semaines, parce que l'avis est mis à peine un mois et demi. Et on a eu les documents, les soi-disant preuves du gouvernement canadien. Et on s'attend à deuxième audience, qui est un peu la conférence préliminaire, le 27 ou le 29 octobre, si je ne me trompe pas la date, pour voir un peu la formalité et aussi les préparer les dossiers. Et l'audience comme telle aura lieu soit le 7 ou le 11 novembre, selon la disponibilité de l'avocat du gouvernement canadien. Ça, c'est des procédures plus techniques et gouvernementales. Et en même temps, on est en train de s'organiser et aussi organiser une campagne, que ce soit par les pétitions qu'on est en train de signer, mais aussi il y a eu des lettres envoyées aux deux ministres, les ministres de l'immigration, mais aussi de la sécurité publique. Et il y a d'autres sensibilisations qui se font. Il y a une journée de l'Assemblée publique, je pense que le 24 octobre, qui va être tenu, où est-ce que Jabbar va partager ses connaissances politiques, surtout sur la question iranienne. Et en même temps, on aura plusieurs mobilisations pour faire valoir au gouvernement canadien qu'il était injuste, il est injuste d'expulser quelqu'un pour ses convictions politiques et surtout des convictions qui sont fondées pour combattre un régime internationalement reconnu comme un régime qui a commis des crimes contre l'humanité.
Puis la stratégie, donc tu parlais de pétition tout à l'heure, ça va être quoi les stratégies employées par les groupes qui soutiennent Jabbar en ce moment?
Le comité, il y a les groupes des personnes qui sont regroupées en comité qui travaillent à plusieurs niveaux. Comme je dis, la pétition, ça faisait partie des démarches qu'on est en train de compléter d'ici à 10 octobre et les envoyer au Parlement, parce qu'il y a un député fédéral qui s'est engagé à présenter ses pétitions au Parlement, qui sont justement scandalisés parce qu'ils trouvent que c'est inhumain d'expulser quelqu'un de 70 ans et quelqu'un qui a une vie avec sa famille ici très paisible et très engagé. Quelqu'un qui est vraiment engagé dans tous les sens pour faire bénéficier la société de ses connaissances, de sa présence. Et en même temps, on va organiser l'assemblée publique justement pour élargir la question, pour que des gens ils sachent qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, à Montréal, il y a tellement de choses qui se passent, mais très très grande majorité des gens ils pensent que on est dans une comme disait Jean Chrétien, on est dans le pays dans le meilleur pays au monde. Mais en réalité, il y a des choses extrêmement tristes qui se passent régulièrement. Il y a des gens qui se font déporter, il y a des gens qui subissent d'autres sortes de préjudices, que ce soit légal, économique ou d'autres. Et ça aussi, on va essayer de faire valoir ça. Et en même temps, on aimerait que les citoyens et citoyennes prennent conscience de ces enjeux et qu'ils mettent la pression sur le gouvernement pour qu'on retire cet avis d'expulsion et que aussi il soit traité comme un être humain et non juste une monnaie d'échange diplomatique.
Puis plus concrètement, quels ce serait justement ces impacts-là qu'il y aurait sur une déportation ou un...
Les lettres qui se trouvent sur le site de Solidarité Jaber et aussi sur le site de Solidarité Sans Frontières, il y a des lettres qu'on peut envoyer aux deux ministres. Ça peut avoir vraiment un impact assez considérable. Avoir le plus de signatures, ça peut être un vraiment élément qui va converger vers la même chose. Et aussi, comme j'ai dit, des gens qui pourraient se mobiliser quand on va faire la journée de l'Assemblée publique ou d'autres événements. On prévoit aussi une manifestation au moment de son audience devant le complexe Guy Favreau. Il faut qu'il ait plus de mobilisation pour que le gouvernement sache qu'il n'est pas tout seul, qu'on peut les jeter à l'extérieur du pays. Et ça serait vraiment un élément très important. Et en même temps, en espérant que les commissaires, ils ont un petit temps dans leur horaire, qu'ils nous écoutent, et écoutent la population, et ils écoutent aussi la raison, qu'on peut pas injecter un être humain de 70 ans comme on ferait comme avec n'importe quel objet.
Puis tu parlais un peu tout à l'heure de l'Iran. Est-ce que tu veux nous glisser un mot sur comment ça se passe? Puis les raisons pour lesquelles, justement, Jaber pouvait s'être battu contre ce régime-là?
L'Iran, ce qu'on a souvent entendu, c'est un régime islamiste, terroriste, et ainsi de suite. Mais on n'expose pas souvent ce qui se passait. Ça veut dire qu'il y a eu des années, des longues années, des décennies de lutte contre le Shah d'Iran, qui était en soi un dictateur, malheureusement appuyé et ramené au pouvoir en 1953 par les CIA et le gouvernement américain. Et pendant toute cette période, on a exécuté par des milliers, pour ne pas dire des dizaines et des centaines de milliers des opposants à ce régime. Et dans les années 70, il y a eu encore plus de mobilisation de toutes les sociétés civiles iraniennes, incluant des groupes religieux, non religieux, mais aussi et surtout les militants et militantes communistes. Et c'est eux qui ont emmené des grandes parties de la lutte qui sont faites exécuter par le Shah. Mais une fois quand il y a eu la période, on peut dire, insurrectionnelle ou la révolutionnelle en 79, faisant la référence à la France surtout et aux États-Unis, qui ont favorisé l'arrivée de Khomeini et d'un régime islamiste au détriment de groupes de gauche, parce que les groupes de gauche, autant qu'ils militaient pour les droits humains et sociaux et économiques, autant ils militaient contre l'exploitation de l'Iran comme certains d'autres pays par des pays impérialistes. Alors à ce moment-là, on avait tout intérêt à accueillir Khomeini d'abord en Paris et ensuite de le préparer et de l'envoyer en Iran avec une belle préparation et avec le soutien des conseillers, des généraux de l'OTAN pour les justement mettre au pouvoir. Et à ce moment, dans cette période, Jaber il s'est milité très fortement. C'est là qu'il était emprisonné aussi. Et ensuite, il a dû quitter à 83 parce que beaucoup par des milliers de ses camarades sont en fait exécutés, massacrés et très documentés dans le monde occidental aussi.
Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aimerais rajouter pour encourager ou qu'il serait important à dire sur la situation?
Pour encourager, comme je dis, il faut que des gens prennent la peine d'aller au moins sur le site de Solidarité Jaber, sinon sur le site de Solidarité Sans Frontières, qui font un excellent travail pour beaucoup de gens. Comme je dis, régulièrement, on déporte des femmes, des enfants. Souvent, on sépare la mère d'un enfant de 2 ans. Et pour même chose pour le Jaber, qui va, si jamais il est expulsé, il y a sa femme qui doit quitter aussi parce qu'il ne peut pas abandonner son mari, et aussi leurs 2 filles qui vont rester ici. Ça veut dire d'abord déjà prendre conscience et se mobiliser, c'est quelque chose d'extraordinaire, et en même temps essayer de mettre la pression sur le gouvernement qui arrête d'expulser Jaber comme certains d'autres pays d'une manière injuste. Et comme on dit, le gouvernement, on peut pas considérer le gouvernement iranien terroriste et criminel de guerre et en même temps ses opposants de même chose. Parce que si quelqu'un qui est en train de massacrer des gens et que moi je m'oppose, on me traite de même manière, c'est vraiment d'une injustice extrêmement grande.
Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, c'est quand est-ce la soirée ou l'assemblée publique qui aura lieu? Est-ce qu'on le sait?
Je suis sûr à 99%. Ça va être le 24 octobre et très fortement à l'UQAM. Mais pour les publiciser, on va les faire sur le site de Solidarité Jabar, mais aussi sur le site de Solidarité Sans Frontières. Alors, pour exactement la date et l'heure et le lieu, ce serait vraiment un événement à suivre parmi d'autres choses sur le site.
Est-ce que tu aurais les liens du site web? Généralement, je les donnerais, mais...
Je te laisserais donner parce que je ne l'ai pas devant moi.
Je crois que c'est Solidarité. Mais si vous tapez Solidarité sans frontières sur Internet, j'imagine que vous pouvez le trouver facilement. Puis Solidarité de Jabar.
Et Jabar, ça en écrit à D, J comme Jean, à B, pardon, A, B, E, R, c'est Jabar. Et Kalibi, K, I, L, B, E, L, I.
K-A-L-I-B-I. C'est bon. Je pense que...
Désolée. C'est...
Andréane, est-ce que tu as trouvé le...
Oui, pour Londres, les gens... Solidarité sans frontières, en fait, le site, c'est solidarityacrossborders.org. Et il y a la version française. Et puis de là, ben, vous allez facilement accéder au site en Solidarité pour Jabar.
Parfait. Merci. Donc, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Nous avons parlé de tout ça. Puis on souhaite que la situation puisse changer pour le mieux.
J'espère aussi, mais ça prendrait la mobilisation de la plupart des gens, ou plus des gens possible.